travail, ben dans le, ça, en français, ça vient de tripalium, donc plutôt un instrument de torture, alors que work, anglais, renvoie plutôt à des éléments justement de création. Donc soit on voit l'effort, soit on voit la création, mais dans les deux pays, on voit bien, enfin, dans les deux langues, la distinction fondamentale par rapport à une situation de relation où on cherche à vous impliquer dans votre, dans votre acte de production, c'est-à-dire le travail.
En fait, dans la langue française, le sens premier du travail, c'est les peines de l'accouchement. C'est une femme au travail. Donc, dans ce sens, déjà, nous avons cette ambivalence profonde d'un acte qui, à la fois, est l'acte créateur par excellence et qui est la souffrance, une souffrance que les hommes sont exemptés. Et ce sens ne renvoie pas historiquement, à des compétences, à des qualifications particulières. Jusqu'à, disons, l'avènement de l'âge industriel, tous ceux qui mettaient en œuvre un savoir, une compétence pour rendre des services, on ne disait pas d'eux qu'ils travaillaient, mais qu'ils œuvraient. Et nous avons encore, dans le mot français ouvrier, c'est œuvrier, c'est celui qui œuvre. Et il œuvre en mobilisant un savoir et des compétences qu'il a incorporées en lui-même.
Les mots sont extrêmement importants. Autour de 80, des années 1980, on a changé les mots et on a changé la représentation qu'on pouvait avoir du monde du travail. Par exemple, les ouvriers ont disparu. Ils sont devenus des opérateurs, des conducteurs d'installation ou des pilotes de ligne. Et on ne parlait plus de qualification, mais de mission, de compétences. On ne parlait plus de collectif, mais d'air, de zone, etc. Et maintenant, sont arrivés tous ces mots anglais, mais qui ont brutalement transformé la perception qu'on pouvait avoir de la réalité du monde du travail. Tout ce qui est le business to business, le scrum, l'agilité, les team building, enfin, même en français, les cadres sont devenus des talents. On retire tout le prisme à travers lequel l'opinion publique considère les travailleurs.
Dans une société contemporaine, au moins un tiers du travail est réalisé en dehors des entreprises. Par exemple, faire le ménage à la maison, élever des enfants, cuisiner, etc. Et ça occupe un tiers de toutes les heures de travail. On n'appelle pas ça du travail parce que ce n'est pas payé, mais si vous engagez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants, ça c'est du travail, parce qu'il y a un salaire, de l'argent qui est versé. Si vous le faites vous-même, vous êtes parent et ce n'est pas appelé du travail. L'enjeu de ce travail à la maison n'est pas mentionné par Marx. Ce n'est pas une question pour lui, même s'il parle de la reproduction sociale, de l'aide familiale, pour que le travailleur puisse retourner travailler tous les jours. Il ou elle a besoin d'être soutenu par quelqu'un d'autre pour survivre, et ça aussi c'est du travail.
Travail, le problème, c'est comme toujours, c'est est-ce qu'on est en train de discuter des mots ou des choses, hein? Et c'est là où les mots sont en même temps des repères et des aides pour se guider dans les choses, et puis en même temps peuvent nous embêter. Vous avez des gens qui parlent du travail, y compris pour les animaux. Hein, après tout, on dit bien un travail de fourmi. Voilà. Et si on définit le travail dans un sens très très large, comme une activité faite pour interagir avec son milieu afin de le modifier pour satisfaire certains de ses besoins, bah évidemment que le travail a existé de tout temps et encore une fois, il n'est même pas spécifique à l'être humain. Alors par contre, ce qui est spécifique à l'être humain, c'est d'avoir des idées sur le travail et c'est d'avoir des sociétés qui l'organisent ce travail d'une manière spécifique. Hein, et de ce point de vue-là, la forme capitaliste ou moderne du travail, ça c'est certain, elle n'a pas existé dans toutes les sociétés.
Alors, je crois vraiment, oui, il faut partir d'un constat un peu troublant, c'est qu'il y a une espèce de silence, en tout cas de ma discipline, l'économie, et ça vaut presque aussi pour Marx, un silence sur le contenu du travail. Et là, il y a une chose absolument sidérante, c'est que le travail n'est perçu que de façon négative. C'est-à-dire, pour dire les choses techniquement, il n'y a que deux sources de satisfaction, d'utilité, dans notre jargon, pour un humain quand il travaille, ou quand il ne travaille pas, c'est la consommation et le loisir. Et donc le travail est une perte de temps, et une fatigue, une source de désutilité, mais qui est évidemment utile, puisque c'est ce qui va nous permettre, lui permettre, d'avoir un salaire qui va financer ses dépenses de consommation.
On ne travaille pas en fonction de son salaire. Il y a nécessairement dans toute activité professionnelle, donc dans tout travail, la volonté de faire quelque chose qui fasse sens pour soi et pour les autres. Quelque chose, comme dit par exemple le psychologue Yves Clos, dans lequel on peut se reconnaître et aussi dans lequel on puisse être reconnu pour ses propres qualités. Donc, et on se donne d'une certaine façon. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand il y avait des grands plans de licenciement, les ouvriers ou les ouvrières disaient « Mais j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, j'ai donné 15 ans, 30 ans, et on me châche comme ça. » Donc on voit bien que dans leur esprit, ce n'est pas uniquement le cadre d'un échange. J'y étais pour travailler pendant un temps déterminé et faire ce qu'on me disait de faire contre du salaire. C'est « Non, j'ai donné ma vie. »
Une ancienne petite copine m'a dit, quand on prétend que les gens ne veulent pas travailler, le meilleur contre-argument est de regarder les prisons. Dans beaucoup de prisons, même celles de haute sécurité, où les détenus ne sont pas obligés de travailler, c'est une menace de leur enlever le droit de travailler. En fait, même les criminels endurcis préfèrent nettoyer les toilettes ou travailler dans la bibliothèque que de traîner. Personne ne veut passer sa journée à ne rien faire. Ça rend fou.
Alors, voilà, Navelle décrit voilà, un moment de félicité au travail pour un terrassier. Vous voyez, je prends ce qu'on peut considérer comme étant vraiment le plus bas de gamme dans la prestation de travail. Il faut travailler en souplesse, surveiller ses mouvements. On ne manie bien la pioche que si on lui a prêté de l'attention. Les terrassiers s'en servent avec économie d'effort. Leurs gestes sont intelligents, bien réglés. Manier la pelle sans excès de fatigue, faire chaque jour une tâche égale, exige de l'habileté. Quand il doit rejeter de la terre d'une tranchée très profonde, il n'est pas de terrassier qui ne se réjouisse de son lancer de pelle. De la répétition du même effort naît un rythme, une cadence où le corps trouve sa plénitude. Il n'est pas plus facile de bien lancer la pelle que de lancer un disque. Avant la fatigue, si la terre est bonne, glisse bien, chante sur la pelle. Il y a au moins une heure dans la journée où le corps est heureux. Alors, je ne suis pas en train de dire que le travail du terrassier, c'est l'idéal indépassable du travail salarié. Mais ce que je veux dire fermement, même dans le travail le plus terre à terre, même dans le travail que nous, moi, intellectuels, j'aurais tendance à regarder de haut, il y a des choses qu'il faut dire. Et oui, il y a, comme le dit Navelle, des moments de félicité.
Alors, la plus belle définition qui était donnée, à mon sens, du travail, je l'ai trouvée dans les écrits sur la science de Simone Weil, je parle de la philosophe, qui dit « C'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. » Alors, cette définition montre cette double fonction du travail humain, qui est une fonction de transformation du monde, mais aussi de domestication, de maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle priver des générations entières de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et se préparer des lendemains mortifères.
Au XIXe siècle, le capitalisme transforme le travail en marchandise. Au premier abord, il semble surprenant que le travail soit une marchandise. Pour comprendre, il est donc essentiel de déterminer la nature exacte de cette marchandise.
Historiquement, le travail n'a pas été conçu comme une marchandise. Le travail a d'abord été conçu comme la façon de survivre, la façon d'assurer la subsistance des besoins. Puisque même pour la cueillette, il faut du travail. Mais donc, le travail comme marchandise va s'imposer avec ce qu'on a appelé le salariat, ce qu'on va appeler le process de développement, qui va petit à petit isoler le travailleur de ses outils de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'heure où je vous parle, dans beaucoup de régions du monde, notamment en Afrique, le travail n'est pas forcément perçu comme une marchandise. Parce que mon grand-père qui va dans son champ le matin, qui cultive, il travaille pour sa subsistance. Il ne travaille pas, souvent même pas pour un marché. Après, vous pouvez avoir des discussions sur les dates précises. Mais ce qu'on sait globalement, c'est qu'on est passé d'un régime, dit l'État sauvage, l'État de communauté, et puis la civilisation. Et dans la civilisation, vous allez avoir le régime esclavagiste, le régime féodal, et puis le régime plutôt capitaliste. Donc je crois que c'est au niveau de la construction du régime capitaliste que la marchandisation va être nette. Parce que le capitalisme, par essence, ça va être l'appropriation privée des moyens de production. Et à ce moment-là, le travail sera clairement un moyen de production, avec un prix et des modalités d'exercice.
It actually takes an awful lot of work.
En fait, il a fallu un temps énorme pour définir le travail comme une marchandise. Moses Finlay, un grand classique, l'a souligné. Il y a de nombreuses expressions comme « vendre son temps ». Le patron dit « vous êtes là pour un temps, même si vous avez fini, continuez et travaillez ». Mon temps, votre temps, c'est une étrange notion, mais c'est indispensable pour comprendre comment le travail devient une marchandise. Regardez les Romains ou les Grecs. Si vous leur aviez parlé d'acheter du temps, ils vous auraient regardé comme un fou.
La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le traitement du travail comme une marchandise est directement lié à cette conception purement négative du travail comme étant une source de désutilité. Si le travail devient, même fugitivement ou partiellement ou provisoirement ou dans certaines parties du temps, une source de satisfaction, d'utilité, alors on ne peut plus utiliser complètement un raisonnement marchand.
Qu'est-ce qu'une marchandise ? Ça peut être un bien, une chose, un objet ou un service produit pour obtenir un revenu. Une marchandise n'est pas forcément stockée. Ça peut être une prestation de service. En conséquence,